texte de prédication de ce dimanche est tiré dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Le thème est la prédication de la croix. Le prédicateur est le révérend docteur Aimé Musonga. L'étude sera faite par l'ancien Basile.
Colossiens 2, versets 14 et 15, il est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. »
Amen.
Alléluia. Alléluia.
Amen.
Voilà. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu glissé de la croix. On va dire que nous ne sommes pas pendant la Pâque. La croix vient chercher quoi ici? Vous savez, pendant la Pâque, nous prêchons sur Christ. Nous oublions l'instrument sur lequel Christ a été crucifié. Or, est-ce que la Bible nous parle de la croix? Oui. Comment la Bible nous parle de la croix dans la vie du chrétien? Quel est le sens biblique de la croix? Et que la puissance de la croix dans la vie du chrétien, dans sa marche quotidienne avec Dieu. C'est pour cela, ce matin, nous voulons juste prêcher sur la prédication de la croix. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous remarquons qu'il y a quelque chose en filigrane, que très souvent nous ne comprenons pas. Quand il y avait les guerres des nations, c'était les guerres des dieux. Voilà pourquoi le roi Assyrien va dire à Josaphat, est-ce que les dieux que j'ai vaincus là, ils ont délivré leur peuple de ma main pour que tu dises que ton Dieu à toi peut vous délivrer de ma main? C'était la guerre des dieux. Avant que ce soit la guerre des hommes, c'est les dieux qui se battaient. C'est pour cela que Dieu se nomme Elohim, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est le Dieu créateur. Alors, je veux parler ici de l'histoire d'un empereur qu'on appelle Constantin. Quand Constantin arrive au pouvoir, la parenthèse, sa mère était chrétienne, oui. Constantin arrive au pouvoir, il était un païen, comme tous les empereurs qui ont fait souffrir les chrétiens, parce que le christianisme était combattu. Il devait combattre contre un autre royaume. Comme je vous ai dit, avant que ce soit la guerre des hommes, c'était d'abord la guerre des dieux, il avait peur de ce royaume à cause de ses sortilèges, sa magie. Et toute la nuit, il était inquiet. Je veux faire comment pour combattre? Pendant qu'il était en train de réfléchir dans l'insomnie, il avait une vision. Une voix lui dit, regarde le ciel. Il lève la voix et plutôt les yeux, il regarde le ciel, il voit le signe de la croix. Dans le ciel, lumineux. Et la voix lui dit, prends ce signe que tu vois dans le ciel, mets ce signe sur les boucliers de tous tes soldats. Et tu vas gagner la guerre. Quand il se réveille le matin, il dit, ah, très tôt vers les 4 heures, il réveille toute son armée. Mettez-moi ce signe sur vos boucliers. Et tous ont mis le signe de la croix. Et quand il est parti, il a gagné la guerre. Alléluia. Et quand il est revenu, il a dit, à partir d'aujourd'hui, le christianisme devient la religion d'État. C'était l'empereur. Donc, tous les dominait devait être chrétien. Il y a eu des avantages, il y a eu des inconvénients dans sa décision, mais c'était bien. Voilà pourquoi il y a la liberté de prier aujourd'hui. La croix. Alors, il y a des symboles de la croix que nous ne connaissons pas d'abord. Il y avait la croix en forme de X. Cette croix. J'espère qu'on voit là-bas. Alors, vous allez voir sur certains dessins, on a crucifié les gens comme ça. C'était cette croix, et cette croix existait. On crucifiait les gens réellement comme ça. Il y avait la croix en forme de T. Voilà. Et là, il n'y avait pas une barre au-dessus. Il y avait juste la traverse qui était là, et puis au-dessus, il n'y avait rien. Et il y avait la croix en forme de poignard. C'est cette croix que nous avons. Alors, souvent on se posait la question, sur quelle croix notre Seigneur Jésus a été crucifié? Est-ce que c'est les deux autres croix ou c'est cette croix? Il y a juste une indication qui nous montre que c'est cette croix. Quand vous lisez les évangiles, il est écrit au-dessus de la tête de Jésus, qu'est-ce qui est écrit? Celui-ci est le roi. Alléluia. Celui-ci est le roi des Juifs. Et ce n'est que sur cette croix, comme il y a une partie au-dessus, on pouvait écrire cela. Donc, cette croix, c'est la croix qui est devenue le signe de la victoire du chrétien. Mais la croix était un instrument de supplice, de mort atroce. Et pendant la Pâque, on a expliqué ça. Donc, avant les Romains, Jésus est mort sous la domination romaine. Mais avant les Romains, il y avait d'autres peuples déjà qui pratiquaient la crucifixion. Ce sont les Romains qui sont venus donc amplifier cela. On crucifiait les brigands, les bandits. Voilà pourquoi quand Jésus est crucifié, il est écrit, il y avait deux brigands à côté de lui. Et on ne crucifiait jamais un Romain. C'était les autres peuples. C'est pour cela, dans la tradition, il est dit, Pierre, l'apôtre Pierre a été crucifié. Mais comment? La tête en bas, les pieds en haut, sous sa demande. Il a dit, ne me crucifiez pas comme mon Seigneur Jésus. Crucifiez-moi la tête en bas, les pieds en haut. C'est pour cela aussi, Paul n'a pas été crucifié, mais décapité, l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il avait la citoyenneté romaine. On ne crucifiait pas les Romains. Alors, c'était juste une petite histoire pour comprendre un peu ce qu'on peut dire sur la croix. Maintenant, quel est le ministère de la croix? Avant d'entrer dans ce que la Bible dit, je veux faire juste un petit résumé de ce qui s'est passé sur la croix avec notre Seigneur Jésus. Quand Jésus est crucifié sur la croix, il y avait les centeniers. Les centeniers, ce sont les soldats à l'époque qui gardaient Jésus. Jésus dit cette parole. Ces centeniers entendent, ils voient. Jésus crie, il voit. Jésus dit, je remets mon âme, mon esprit entre tes mains, Père. Et il meurt. Donc, il regarde Jésus, il sait que celui-ci a l'autorité sur la mort. Il peut mourir quand il veut. Il a vu des centaines, des milliers de gens mourir sur la croix. Comment il crie, il souffrait. Il n'avait jamais vu quelqu'un mourir comme Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Il se convertit. Jésus est crucifié parce qu'il disait que je suis fils de Dieu. Et donc ce centenier confirme la manière dont il meurt là. C'est un fils de Dieu. Donc il y a la conversion. Jésus est en train de mourir. Tout un ministère se passe à la croix. Il y a la conversion. La mort de Jésus nous montre aussi le brigand qui a été sauvé. Vous connaissez l'histoire, on va juste survoler. Ce brigand-là qui était en train d'insurer Jésus et l'autre qui dit, nous sommes des brigands, nous méritons la mort. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il se tourne vers Jésus. Il faut comprendre une chose, nous sommes peut-être à quelques heures de sa mort. Quelques heures. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton ciel. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il y a la conversion ici, ou le salut d'un brigand. Ensuite, toujours sur la croix. Jésus va pousser un grand cri, je prends juste l'essentiel. Il est à Golgotha, lieu de crâne, là où il est crucifié. Le temple est à des milliers, enfin à des kilomètres. Et là, il pousse un cri dont le temple, le voile se déchire en deux, considérant que c'était ce temple-ci. Donc, de ce côté-ci, jusqu'ici, il y avait le rideau. Et là où nous sommes, c'était le lieu saint. Bon, permettez que je sois dans le lieu saint. C'était le lieu saint. Et donc, le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu une fois l'année. Quand le voile se déchire, c'est toute une signification théologique. C'est-à-dire que le chrétien a le droit de s'approcher dans le lieu saint sans intermédiaire. Avec Christ, il peut entrer dans la présence de Dieu. Voilà le ministère de Christ sur la croix. Mais maintenant, la signification de la croix selon la Bible est dans notre vie. La croix nous montre la réconciliation. La croix nous réconcilie avec Dieu et avec notre prochain. Nous avons deux barres. Il y a la réconciliation verticale, l'homme et Dieu. Je reviens dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, quelle était leur attitude? Ils ont fui loin de Dieu. Donc très souvent, donc, quand l'homme pêche, il a tendance à fuir Dieu. Beaucoup d'entre nous. Ah, j'ai péché. Comment je vais aller dimanche au temple? Oh, j'ai péché. Comment je vais m'asseoir pour prier ou bien pour adorer? Non, je suis dans le péché. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Donc, même s'il y a le péché, je ne vous dis pas les péchés, hein, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que à cause de la mort de Jésus, il nous a réconciliés. Donc, s'il y avait en moi une attitude de fuir Dieu, sa présence à cause du péché, viens alors à la croix de Christ. Demande pardon et la réconciliation avec Dieu se passe. De même, il nous a réconciliés entre frères et entre sœurs. Selon qu'il est écrit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton autel. Si là je suis en train de présenter l'offrande, qu'est-ce que l'offrande aujourd'hui? C'est notre adoration, nos prières, nos louanges, nos sacrifices pour Dieu, nos prières. Voilà l'adoration, plutôt voilà l'offrande. Si je suis en train de présenter l'offrande, c'est-à-dire j'entre dans un moment de prière, et l'Esprit me dit dans ma tête que mais tu as un problème avec ton frère, arrête. Va d'abord te réconcilier. Ou bien quand tu finis là, il faut te réconcilier. C'est important. Comment nous pouvons présenter l'offrande à Dieu? Comment je peux venir chanter devant? Comment je peux venir adorer, m'asseoir là où je suis assis, là où je prêche là? Sachant que j'ai un problème avec mon frère. Dieu n'agrée pas. Voilà pourquoi il dit, ta prière même est une abomination. À cause du fait que tu oublies que je t'ai réconcilié par ma mort sur la croix, tu dois te réconcilier avec ton frère par nos paroles. Oui, les paroles légères. Nous avons blessé nos frères. Une parole déplacée. Une parole qui injurie, la calomnie sur ce que je n'ai pas fait. On dit partout qu'il a fait, il a fait. Tu étais là. Ces paroles blessent les autres. Oui, par le mépris. Nous méprisons les autres par l'orgueil. Nous sommes orgueilleux, nous regardons les autres d'en haut. Nous sommes orgueilleux. C'est ça la nature humaine en fait. Mais la Bible dit, arrête. Va d'abord vers ton frère. Parce que le ministère de la croix de Jésus nous a réconciliés. Et quand tu seras réconcilié avec ton frère, viens maintenant, tu présentes ton offrande à l'Éternel. La croix nous montre quoi? La croix nous montre l'humilité. Il est écrit dans Philippiens 2, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Pourquoi la Bible reprend deux fois? Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Parce que je vous ai expliqué au départ, la mort de la croix était une ignominie, c'était l'opprobre, c'était la souffrance. Regardez ce Dieu, Jésus, oh si il peut nous ouvrir les yeux pour que nous voyons sa gloire. Lisez un peu Apocalypse, vous allez voir quelle est la gloire qu'il avait au ciel. Rempli d'éclat, assis sur son trône de gloire, il abandonne le ciel, descend sur la terre, prend la chair humaine et se fait crucifier. Quelle humilité! Toute la vie de Jésus, c'est l'humilité. Toute la vie de Jésus, c'est l'humilité. Regardez là où il est né. Juste une parenthèse. Il pouvait naître chez Hérode. Regardez son métier. Dieu, c'est qui? C'est Dieu, lui. Il pouvait être un scribe, un homme intelligent. Mais il est comment? Il est qui? Un charpentier. Vous voyez ça? Je reviens sur la vie quotidienne. Et par exemple, l'ancien. Allez, tu viens dire, fais-moi les chaises. Et puis, je me mets à te faire les chaises, les canapés. Tu reviens, tu n'as pas encore fini. Est-ce que tu sais que tu t'adresses à Dieu? Je reviens à l'époque de Jésus. Si quelqu'un lui disait, tu n'as pas encore fini les tabourets, est-ce que la personne sait qu'elle s'adresse à Dieu? Jésus est Dieu. Il s'est abaissé. Est-ce que nous sommes humbles? Non, regardons nos vies. Est-ce que nous sommes humbles? La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Et d'autre côté, elle dit aussi, Dieu résiste aux orgueilleux. Peut-être que ma vie ne marche pas parce qu'il y a un point d'orgueil quelque part. Et Dieu me résiste. Si Dieu me résiste, qui peut faire? Personne. Alors la croix nous montre l'humilité, soyons humbles. La croix nous montre aussi la souffrance. Il est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Alors le contexte dans lequel ce verset est donné. Quelqu'un voulait venir, c'est Jésus. Je veux te suivre. Jésus lui dit, hé, moi là, je n'ai même pas un lit. Là où poser la tête, je n'ai pas ça. Je vis comme le renard. Est-ce que tu veux me suivre? Alors porte ta croix. Accepte la souffrance pour moi. La souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu. Christ, c'est l'exemple parfait. Vous voyez comment il a souffert? La souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu est un passage qui nous ouvre la porte à la gloire. Nous oublions que souffrir, parfois, c'est dans le plan de Dieu.
Quand Dieu prend les enfants d'Israël pour nous amener à Canaan, la terre promise, ils sont passés par où? Par le désert. C'est dans le désert, que ce peuple se forme. La souffrance que nous nous formons dans la prière, c'est dans la souffrance que nous devenons forts, c'est dans la souffrance que ma foi s'affermit. Je dois accepter la souffrance. Mais nous avons dit quoi? Dieu m'a oublié. Dieu est loin de moi. Combien de fois toi et moi on a dit ça? Oh, où es-tu Dieu? Pourquoi ça m'arrive? Ça t'arrive pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Oui, regardez l'aveugle né. Il est né aveugle, le pauvre. Il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Qui a péché? Est-ce que c'est lui? Il dit non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Donc la souffrance nous permet de se forger dans le Seigneur. Vous savez, Jésus, avant sa mort, il savait qu'il allait souffrir. Il était Dieu, il voyait tout. Comment on va flageller son corps? Comment il sera insulté, on va cracher sur lui, on va percer les mains, les pieds, le côté. Il voyait. C'est pour cela, à Gethsémané, il va prier le Seigneur. Et il est écrit, et la sueur qui coulait était comme des grumeaux de sang. C'est parce qu'il a prié qu'il a eu la force d'affronter la souffrance. La souffrance fait de nous des hommes et des femmes de prière. Nous devons prier quand ça ne marche pas. Parfois, Dieu laisse quelque chose dans ma vie pour que ma prière augmente. Je dois continuer à prier. Donc, si je souffre quelque part, Dieu veut que je prie. Vous connaissez l'histoire de Anne, la maman de Samuel. Il est écrit, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. L'amertume dans l'âme. Elle souffrait. Mais elle priait aussi. Et les larmes coulaient. Ça fait d'elle d'abord une femme de prière avant que Dieu puisse la bénir. Donc si je souffre et que j'abandonne la prière, c'est mal fait. Je dois m'approcher de Dieu. Mon sauveur souffre sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. De bien. Après avoir souffert, quand Jésus ressuscite, il dit tout pouvoir m'a été donné. Et la Bible dit il est assis à la droite du Père. La souffrance nous prépare à la gloire. Je peux souffrir pendant un moment, mais Dieu sait que parce que j'ai souffert et que je suis resté attaché à lui, il a ouvert une porte. Quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 8, il est dit: puisque tu n'as pas renié mon nom pendant que tu souffrais, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La souffrance nous amène à la gloire. La croix avant la gloire. Quand nous portons notre croix, c'est que nous avons la gloire qui nous attend. Alléluia. La croix nous montre aussi l'amour. L'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu attend qu'il a donné. Le fait de donner là, c'est dire à Jésus, va mourir pour ce peuple. C'est dans l'amour qu'il donne son Fils qui viendra mourir pour nous. J'aime bien ce qu'un célèbre homme de Dieu avait dit, Saint Augustin. Il dit, Christ sur la croix, c'est la lettre d'amour de Dieu pour l'humanité. Quand nous voyons Jésus sur la croix, c'est comme Dieu a écrit une lettre d'amour pour nous. Il nous aime. Regardons l'amour de Jésus, plutôt l'amour de Dieu, à travers quatre femmes qui sont dans la Bible. Alors je commence par Rahab. Rahab était une prostituée professionnelle. Hein? C'était son métier, comme on dit, le plus vieux métier du monde. Quand les enfants d'Israël entraient à Canaan, Jéricho, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a envoyé les espions aller chez Rahab. Donc, déjà, sa prostitution là dépassait même les frontières. On vient vers elle. Mais Rahab va se transformer. Rahab sera dans la généalogie de Jésus. Peu importe ce que tu es, Dieu t'aime. Ouais. Même si ma vie était comme ça, j'ai vendu mon corps, j'ai été violé, on a fait sur moi des choses qui n'existent pas. Ce matin, je veux te dire que Dieu t'aime. Alléluia. Approche-toi du Seigneur. Une autre femme. Tamar. Tamar, c'est qui? Alors, il faut remonter l'histoire pour que vous compreniez. Jacob a eu 12 enfants, dont l'un s'appelait Judas. À un certain moment, Judas se déplace de son père pour aller vivre sa vie dans une ville des Cananéens. Et là-bas, il va épouser une femme et va avoir des enfants. Son premier-né va grandir. Il va prendre pour son premier-né une femme qu'on appelle Tamar. Donc Tamar est la belle-fille de Judas. Or, quand il arrive que le premier-né de Judas n'a pas eu d'enfant avec sa femme Tamar, il va mourir. Or, la loi du Lévirat disait qu'en Israël, même parfois dans nos coutumes africaines, si l'aîné meurt sans avoir l'enfant, le petit frère qui vient doit épouser sa femme pour donner la postérité à l'aîné. Pourquoi? C'était un problème d'héritage. C'est-à-dire, quand le père meurt, la double portion d'héritage revient à l'aîné. Et donc, si l'aîné n'a pas eu d'enfant, c'est son fils qui va hériter, plutôt le fils qu'il va avoir après lui, s'il est mort,
va hériter de son héritage. C'est pourquoi le deuxième enfant de Judas ne voulait pas donner de postérité à son grand frère. Vous connaissez l'histoire. Il se souillait à terre. Parce que s'il donne la postérité à son grand frère, ce n'est plus lui qui va hériter, mais c'est le fils qui vient de naître. Donc, il avait un mauvais cœur. Il a refusé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a tué. Voilà. Et maintenant, le dernier qui grandissait, bien sûr, Tamar devait être sa femme, mais le père réfléchit. Ah, comme les deux là sont morts, si je donne encore celui-ci, ça ne sera pas bien. Il a refusé. Et il a dit à Tamar, va d'abord dans ta belle famille, on va gérer ça après. Tamar est parti. Mais Tamar se rend compte que le fils l'a grandi, on ne lui donne pas. Et puis, elle a entendu que son beau-père, Judas, est en train d'aller pour aller tondre les brebis. C'était une grande fête en Israël. Quand on tondait les brebis, on enlevait la laine, c'était beaucoup d'argent. Et parfois, on tuait pour vendre la viande. Donc, il y avait une grande fête. La renommée ou bien la nouvelle se répandait. Donc, elle a entendu. Elle s'est déguisée en prostituée pour séduire qui? Son beau-père. Nous condamnons Tamar, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut qu'on soit ensemble. Je dis ceci. Nous condamnons Tamar, n'est-ce pas? Voilà. Elle a mal fait, non? Pourquoi on condamne les hommes et les femmes, on ne condamne pas les hommes? Pourquoi Judas va chercher une prostituée? Il est un enfant de Dieu, non? Pourquoi il part chercher une prostituée? Lui aussi, il est condamnable? Ah oui! Bon, ce n'est pas ça notre histoire ce matin ou notre prédication ce matin. Seulement, Tamar va réussir à coucher avec son beau-père. Ça, c'est l'inceste que la Bible condamne fortement. Mais cette femme se retrouve dans la généalogie de Jésus. Une autre femme, Ruth, la Moabite. Toujours, il faut planter le décor, l'histoire. Lorsque Dieu fait sortir de Sodome et Gomorre Lot, Lot va fuir avec ses filles. Et en ce moment-là, Lot va partir dans un endroit où il n'y a pas d'homme. Donc, Lot est seul avec ses deux filles. Et les deux filles s'entendent. Ils regardent leur père et disent, si notre père meurt, qui sera avec nous? Personne. Donc faisons quoi? Faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Et quand ils vont faire boire le vin à leur père, l'aîné va coucher avec son père. Elle sera enceinte. L'enfant qui va naître s'appelle Moab. D'où l'origine des Moabites. Donc les Moabites sont issus de l'inceste. Voilà pourquoi Dieu dit, le Moabite n'entrera jamais dans mon assemblée. Alléluia. Il n'entrera pas. Mais voilà Ruth qui est une Moabite, qui va recevoir la gloire. Je ne prêche pas sur Ruth aujourd'hui, mais il y a tout un enseignement dans l'histoire de Ruth. Tout un enseignement. Comment elle change de foi, elle s'accroche au Dieu d'Israël. Ton Dieu sera mon Dieu. Et voilà comment elle se retrouve dans la généalogie de Jésus. Et la dernière personne, c'est Bathsheba. L'histoire, vous connaissez, je vais survoler. Jusqu'à ce que David va tuer son mari, Uri, pour coucher avec Bathsheba et la prendre plus tard comme femme. Ça aussi, c'est condamnable par la Bible. Donc, nous voyons que les quatre femmes qui sont dans la généalogie de Jésus ne peuvent pas être dedans. Mais nous voyons l'amour de Dieu qui couvre quoi? Les fautes. Alléluia. J'en dis encore ce matin, peu importe ce que tu es, Dieu t'aime. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans la vie.
Oh,
l'amour de Dieu si fort, mais en même temps si tendre. Comment comprendre ce qui est fort et lier ça à ce qui est tendre? Il n'y a que Dieu qui peut avoir ça. Jésus t'aime. Il t'aime réellement. C'est cet amour qui doit être dans nos relations entre frères et sœurs à l'église. C'est-à-dire, malgré tes défauts, je t'aime. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Chacun a ses défauts. Mais aimons-nous, acceptons-nous comme nous sommes. L'amour de Dieu, c'est l'amour malgré. Malgré ce que nous sommes, Dieu nous aime. Cet amour doit être entre le mari et la femme. Je connais que mon mari a ses défauts. Ma femme a ses défauts. Mais je l'aime comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On étale sur la place publique les défauts du mari ou bien de la femme. Hé, mon mari, hé, ma femme, oh, je ne parle pas. Cherche à avoir l'amour malgré, au nom de Jésus, nous allons comprendre. Alors la croix encore, la croix nous montre quoi? La croix nous montre le pardon. C'est là qu'il est écrit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Jésus. Quand nous voyons ce verset, on ne comprend pas bien la pertinence, la profondeur. Il est là. On a craché sur lui. On a flagé son corps. Gelé. Et sur la croix, on a percé ses pieds, le côté même. Il dit, Père, pardonne-le. Alléluia. Quel exemple du pardon. C'est Jésus qui est l'exemple du pardon. Il nous dit aussi, là où nous sommes assises, c'est sûr qu'il y a des prisonniers, des prisonnières dans nos cœurs. Il m'a fait du mal, j'ai gardé ça. Tant que tu gardes ça, toi-même tu es esclave de ta haine. Le pardon est une puissance qui libère. Bon, ce n'est pas l'étude sur le pardon aujourd'hui, ça ne vient pas un claquement de main, non. C'est un processus de guérison, le pardon. Mais il faut qu'on commence le processus. Il faut que j'accepte. Alors, j'étais à l'omnisport. Une femme est arrivée, on me l'a présentée. Je l'ai reçue dans mon bureau. Et nous avons parlé. Elle m'a expliqué ce que son mari faisait sur elle. Et je vais d'abord dire, l'offense est proportionnelle à l'amour que nous portons à l'autre. L'offense. Si c'est un frère dans l'église qui m'offense, oui, c'est mal, mais ça passe. Si c'est mon mari ou ma femme, ça me fait plus mal. Quand il a commencé à expliquer ce que son mari faisait sur elle, au fond de moi, je me sentais révolté. Ça, c'est quel homme qui peut faire ça sur sa femme? C'est inhumain. Mais il fallait se calmer, parce que c'est toi le pasteur, non, il faut gérer l'affaire. Et puis, je lui ai dit, Est-ce que tu peux pardonner à ton mari? Parce que ta guérison va commencer quand tu vas commencer aussi à pardonner. Elle a éclaté en sanglots. Pendant au moins 10 minutes, elle pleurait. Les larmes coulaient. Je donne une pochette, elle s'essuie, ça sort. C'est comme si elle est en train de se libérer de quelque chose qui était enfoui en elle. Parfois, pleurer, c'est une thérapie. N'aie pas honte de pleurer. Oui, Jésus pleura. Donc on peut pleurer. Pendant qu'elle pleurait, je sentais que quelque chose se libérait en elle. Et après 15 minutes, elle m'a dit, pasteur, je crois que je peux pardonner. Est-ce que tu as pardonné à ton frère? Est-ce que tu as pardonné à ta sœur? Parfois l'offense est une occasion pour que nous manifestons le pardon. Alléluia. Alors la croix. La croix, c'est aussi le lieu de la guérison, selon qu'il est écrit. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand Christ va mourir, lorsque le sang sort de son corps, dans ce sang, il était écrit pardon, protection, mais il était aussi écrit guérison. Je m'approche du Christ pour lui dire, Seigneur, que ton sang qui a coulé sur la croix me guérisse. Le sang de Christ, c'est le médicament au-dessus de tout médicament. Ce sont détruits les microbes, les virus, les maladies. Donc si j'applique le sang de Christ dans la foi, dans mon organisme, j'ai cette guérison. Et Pierre, quand il reprend ce passage d'Ésaïe, il dit, lui par les mérites duquel vous avez été guéri. Ésaïe parle au présent, je suis, mais il dit au passé, vous avez donc, c'est déjà la guérison à Christ. Il faut que je m'approche. Il y a tellement d'exemples et de prédications là-dessus, des témoignages de personnes qui ont été miraculeusement guéries. Je vous ai parlé de Constantin. Sa maman était chrétienne. Sa maman priait pour son fils. Maman, priez pour vos enfants. Dieu lui-même va agir plus tard. Et quand elle est tombée fortement malade, elle allait mourir. Elle a dit à son fils, qui était empereur, amène-moi vite à Jérusalem. C'est quoi là-bas? Tu dis, amène-moi à Jérusalem. Elle est partie à Jérusalem. Elle dit, cherche la croix de Jésus. On a cherché la croix. Pendant qu'elle fixait la croix, elle a été miraculeusement guérie. Alléluia. La croix nous donne la guérison. La croix, c'est le lieu où Jésus a changé nos malédictions en bénédictions. Selon qu'il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Là où tu es assis, là où tu es assise, vous qui êtes en haut, vous êtes bénis au nom de Jésus. Rien ne peut me maudire. Aucune forteresse, des mauvaises fondations, la sorcellerie, que sais-je encore. Ça n'a pas d'effet en moi parce que Christ a pris ma bénédiction. Quand il m'a regardé, dit, pasteur aimé, il a dit, ancien, tu es béni au nom de Jésus. Nous devons l'accepter. Alors ne confonce plus jamais la malédiction dans ta vie, parce que tu es une bénédiction de Dieu. Alléluia. Et il a changé cela. Il a changé cela. Quelle victoire. Quel Dieu nous avons. Et quand il me regarde, même si les gens me regardent avec les yeux qui me regardent, mais quand Dieu me regarde, c'est avec les yeux d'amour. C'est avec les yeux de bénédiction. C'est avec les yeux de victoire. Alléluia. Dernier élément. La croix de Christ, c'est la victoire du chrétien. Et c'est le passage que nous venons de lire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Nous sommes des hommes libres. Dis à ton frère, ta soeur, tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Il nous a libérés. Alors on va essayer un peu de voir quel est le message caché dans ce passage d'aujourd'hui. Bien, nous voyons que dans ce passage, au verset 14 et au verset 15, il est fait mention de la croix. Hein? En triomphant d'elle par la croix. Alors, Jésus a effacé quoi? L'acte dont les ordonnances me condamnaient. Où? Sur la croix. Donc, tu es un homme libre, tu es une femme libre. Même si dans le monde de ténèbres, on a signé des décrets que je ne peux pas me marier, que je ne peux pas m'accoucher, que je ne peux pas travailler, que je ne peux pas aller loin. Jésus a déchiré sur la croix. Alléluia! 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 Il a déchiré. Il a effacé l'acte qui me condamnait. Je suis libre en Christ. Oui, en même temps, il est écrit, il a dépouillé qui? Les dominations et les autorités. Alors là, j'aime la version originale, c'est-à-dire le grec. Le mot grec ici, apekoio veut dire, à la place de dépouiller, il est écrit, il a désarmé, il a rendu impuissant. Donc dépouiller veut dire, il a désarmé, il a rendu impuissant le diable. Donc devant toi, en qui Christ vit, le diable est impuissant. C'est ta victoire. La victoire d'un enfant de Dieu. Or, ici, Paul est en train d'entrer dans la coutume de son époque. C'est-à-dire, quand un roi était en guerre et qu'il avait vaincu l'autre, qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait sur ce roi-là sa couronne et ses habits. C'est ce qu'on appelait dépouiller ou déposer. Il est écrit, lorsque David est parti combattre contre un roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il enleva la couronne de dessus sa tête, la tête du roi. On l'a mis sur la tête de David. C'était la coutume pour montrer. Parce que qu'est-ce qu'il faisait un roi? C'est son habillement. Il s'habille, il s'assoit sur le trône, voilà le roi. Et quand on te dépouille, tu n'as plus de prérogatives comme roi. Et ensuite, quand il est dit, il a livré un spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, nous sommes dans la coutume de l'époque. Ça se passait comment? Quand un roi, permettez-moi juste pour essayer un peu d'illustrer cela. Par exemple, le Cameroun est un royaume qui va aller combattre contre, je ne sais pas, le Gabon, le Tchad, le Congo ou un autre pays. Et quand le Cameroun part combattre contre ce pays-là, il gagne la guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce roi-là. Il attache le roi, bien sûr, qui a gagné. L'attache derrière son char. Il dit à sa population, à son pays, j'arrive. Toute la population sort de leur maison pour venir huer sur le roi vaincu. Voilà pourquoi c'est ça l'expression qui veut dire livrer en spectacle. C'est ce que Jésus a fait du diable. Il a livré en spectacle. Nous sommes des vainqueurs au nom de Jésus. Nous devons marcher dans la victoire car Christ est notre victoire. Je vais finir par un témoignage. Il y avait un pasteur évangéliste. C'est pas comme on dit évangéliste, c'est nous. Non. Un pasteur évangéliste, celui qui fait les campagnes d'évangélisation. Donc, il est parti faire une campagne d'évangélisation. Vous savez, chez les pays développés aux États-Unis là-bas, quand on fait la campagne d'évangélisation, on se réfléchit sur tous les détails, l'organisation, la logistique, tout ce qui est autour. Mais cette fois-ci, on a oublié un détail. Il est venu, il a prêché dans un grand stade, les gens sont venus à Christ, il y avait une bonne sollicitation, une bonne parole de Dieu. Maintenant, on a oublié l'hôtel où le pasteur allait dormir. Il a fini, mais je crois que c'était voulu par Dieu. Il a fini de prêcher, d'évangéliser. Il est fatigué la nuit, il veut dormir. Et il dit, bon, ok, mon hôtel est où? Il dit, on a oublié. Il dit, ok, c'est pas un problème. Il y a un hôtel ici en face. Allez me chercher une chambre là-bas, je veux dormir. Ils sont venus à l'hôtel, ils ont vu le chef de l'hôtel. Nous voulons, est-ce qu'il n'y a pas une chambre chez toi? Parce que la campagne, c'est notre pasteur. Le maître de l'hôtel, les deux jettent un regard un peu complice là. Et puis il dit non, il n'y a pas de chambre ici. Il insiste, lui-même, je suis fatigué. Même s'il faut dormir à Dieu, je dors. Donne-moi une chambre. Même instant, il y a encore le même regard. Ce regard. Le maître d'hôtel et ses agents. Et puis, les agents font ceci au maître d'hôtel. C'est-à-dire, accepte. Le maître d'hôtel dit, ah oui, j'ai oublié, il y a une chambre au fond là-bas, tu peux prendre la chambre là. Il dit, ok, c'est bon. Il est parti, il est entré dans la chambre, il a fait sa prière et s'est couché. Quand il est resté couché, au milieu de la nuit, il a senti froid. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il se réveille, il est à terre. Il n'est pas sur le lit, il est à terre. Il s'est dit, bon, comme j'ai prêché toutefois, j'étais un peu fatigué, j'ai oublié de dormir sur le lit. Maintenant, je monte. Je suis conscient que sur le lit, il dort. Alors là, il dort sur le lit. Et puis, il dort sur le lit. Après, quand il se réveille, il n'est même pas à terre, il est sous le lit. Sous. Là, il comprend que... Donc, on ne voulait pas donner cette chambre parce qu'il y avait un esprit ici, là. Okay. Allez, on va voir. Il s'est levé. Il a commencé à chanter. Quel sauveur merveilleux je possède qui se livre à la mort pour moi. Attaché à la croix. Oh, oui. croix de Jésus et il s'est levé pour prier. Il a ouvert ses mains, il a dit « Père éternel ». Or, quand il a ouvert ses mains, vous voyez ma position, ça représente quoi? La croix, la lumière qui était derrière a projeté l'ombre sur le tapis, ça a fait la croix. Au moment où il y a eu la croix, la fenêtre s'est ouverte, puisqu'il avait les yeux ouverts, un oiseau noir est sorti. Il a dit « Seigneur, je te rends grâce, parce que ta croix est notre victoire. » Alléluia. Et il a dormi comme un enfant. Les gens avaient peur. On vient toquer. Il ronfle. Non, il dort. Il dit, c'est sûr qu'il est mort. Il y avait la panique dans l'hôtel. Tout l'hôtel, le personnel est venu toquer. Et puis, il a dit oui. Comme le blanc est très respectueux, nous voulons t'apporter le déjeuner. Il dit, on ne sait pas attendre. Ah, il est pas bon. Mais comment il a réussi de dormir dans cette chambre-là? Quand il se réveille, le chef de l'hôtel l'appelle. Vous ne partez pas, venez me voir. Il a souri, il a dit, je sais. Ils sont venus et il lui dit, comment tu as pu dormir dans cette chambre? Il lui dit, par la croix de Jésus, j'ai délivré ta chambre. Alléluia. La croix de Christ est notre délivrance. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu.